retour dans le podcast d'Endurance Info avec Monsieur Eric Hélary, toujours et toujours Monsieur Laurent Mercier. Eric, j'aimerais aborder avec toi ta carrière, parce que ta carrière, tu pourras peut-être nous dire qu'elle a eu d'autres aspects importants, mais en tout cas, le premier que je vois qui est inévitable, c'est Peugeot, bien entendu. Tu as remporté les 24 heures du Mans avec la marque française, mais tu as aussi énormément travaillé en coulisses pour Peugeot. C'est une marque que tu ne peux absolument pas dissocier de ta vie, c'est indispensable.
Ah oui, clairement. Peugeot et moi, c'était une histoire d'amour, ça l'est toujours. On a eu des hauts et des bas, hein. Des fois on s'est un peu trompés tous les deux, mais ça reste un souvenir génial. J'ai toujours beaucoup de copains qui travaillent là-bas, et c'est vrai que finalement ma carrière elle a débuté quand j'ai gagné Le Mans, effectivement en 93, avec Jean Todt, parce qu'il y avait quand même Jean à la tête de Peugeot Sport, et c'était pareil, hein. Quand on voit tout ce qu'il a fait par la suite, c'est quand même un sacré monsieur, Jean Todt. Hein. Donc, d'avoir Jean Todt comme patron, à l'époque, les budgets, il faut bien dire aussi que c'était pratiquement sans limite. Et puis, une Peugeot 905, gagner Le Mans pour sa première participation, tout ça fait que j'ai presque commencé les 24 heures du Mans à l'envers. Normalement, tu vas au Mans, tu prends de l'expérience, tu fais un podium et puis tu gagnes. Moi, je suis arrivé et j'ai gagné tout de suite. Après, par contre, j'ai galéré parce que des podiums, j'en ai fait un paquet, mais j'ai jamais réussi à regagner.
Par contre, ça a dû t'ouvrir des portes pour après.
Énormément. J'ai fait 11 fois Le Mans et évidemment, le fait d'avoir gagné, c'était la cerise sur le gâteau, mais surtout, on avait tellement d'expérience parce qu'on a fait 7 fois 24 heures en essai libre avec Peugeot. Donc, évidemment, on intéressait tous les constructeurs parce qu'on avait une expérience pour des jeunes pilotes qui était juste incroyable. Donc, c'est ça aussi qui a intéressé les constructeurs.
Tu en parlais un petit peu la dernière fois. Revoir la 905 rouler, est-ce que ça te fait réaliser à quel point cette voiture était exceptionnelle ou qu'est-ce qu'elle avait de plus qui lui a permis de gagner dès sa première sortie?
Il y avait tout. Ce n'est pas compliqué. Cette voiture, elle était révolutionnaire parce que déjà dessinée par André de Cortanze, ce qui n'est pas rien. Ensuite, il y avait un V10 à l'intérieur. Qui était dessiné par Monsieur Boudy. Et puis, il y avait, je ne sais pas, 300 personnes qui travaillaient chez Peugeot. C'était que des top niveaux. Il y avait tous les ingénieurs qui venaient de la Formule 1. On avait tout pour que ça réussisse. La voiture était jolie, avait un son incroyable. Et puis, on a tous travaillé beaucoup pour y arriver. Donc, pour moi, c'était une aventure qui était forcément... qui devait se terminer en victoire, mais je me suis rendu compte par la suite que on a fait pratiquement la même chose avec Toyota et qu'on n'a pas gagné. Avec la GT1, c'est pareil, on avait tout ce qu'il fallait pour l'emporter et on n'a jamais gagné avec cette voiture.
Et qu'est-ce que c'était la petite truc qui a manqué
La chance. Non mais vraiment, la GT1, c'était la meilleure voiture, tout comme la Peugeot. Il y avait tout pour que ça réussisse. C'était aussi André de Cortanze qui était à l'origine de la voiture. On avait une équipe, c'était Toyota Team Europe avec Ove Andersson aux commandes. En pilote, c'est pareil, il y avait tout ce qu'il fallait. Et on n'a pas eu de réussite ce jour-là. Parce que Le Mans, il faut de la réussite. Tu regardes Mercedes au Mans, ils ont quand même, je crois que c'est les pires en termes de chat noir. Il y a eu l'accident en
1955.
Combien de morts? C'était Mercedes. Ensuite, les Mercedes qui s'envolent. Enfin, ils ont tout eu au Mans. Et franchement, je pense que Le Mans, c'est une épreuve qui choisit ses vainqueurs, peut-être.
Donc, à la suite de ça, bien entendu, aussi, tu as évolué dans ta carrière. Tu as eu ta carrière sportive. Mais il y a toujours eu Peugeot à un moment. C'est-à-dire que toutes les voitures qui ont roulé, que ce soit en circuit, mais aussi en rallye, peut-être que des gens ne le savent pas, mais tu as souvent développé ou en tout cas aidé à préparer les 206, les 307 WRC. Ouais. Tu les connais par cœur, ces autos.
Par cœur, oui. Par cœur, parce que, en fait, c'était un peu calculé, mon histoire, parce que tous les ans, on me signait mes contrats 15 jours avant la première course de Super Tourisme. Et je me suis dit, comment je peux faire pour que Peugeot ait besoin de moi à l'année? Et je discutais avec Jean-Pierre Nicolas, qui était mon patron, mais un peu copain quand même. Et je vois qu'ils déverminent. Donc, ils essayent des voitures de rallye pratiquement tous les jours à Montlhéry. Et moi, à l'époque, j'habitais Rungis. Je dis à Jean-Pierre, mais je dis, mais tu veux pas que je roule avec tes voitures plutôt que de faire venir Grenholm, Panizzi, Roven Perra? Mais il me dit, bien sûr. Le lendemain, je montais dans une 206 WRC. Et j'ai donc roulé dans toutes les 206, toutes les 307 ensuite, et toutes les voitures de rallye d'ailleurs à la fin. Je roulais 2-3 jours par semaine. C'était incroyable parce que de rouler dans une WRC, c'est pas donné à n'importe qui. Et moi, j'ai roulé, mais dans des conditions incroyables. Il a neigé à Mortefontaine, on a roulé sous la neige. Après, j'ai fait des essais mauvaise terre. Enfin, c'était formidable. Génial.
Et avec une feuille de route à respecter pour développer la voiture, parce que toi, tu es réputé pour être un pisteur et pas un rallyman. Et alors, du coup, au début, le gap n'est pas trop important.
Alors, pas vraiment le développement, parce que ça, il le laissait quand même aux pilotes. À l'époque, encore une fois, tu avais des Burns, Grenholm, Panizzi, qu'il y avait encore... ils n'avaient que des super pilotes. Après, quand je l'ai fait chez Citroën, il y avait Loeb. Donc, si tu veux, ils n'avaient pas vraiment besoin de moi pour développer réellement la voiture. Mais tout ce qui était essais, endurance, et surtout tous les essais des voitures avant qu'elles ne partent sur les rallyes. Je roulais dans toutes les voitures quelques jours avant qu'elles prennent l'avion ou le bateau. Et c'était un peu d'ailleurs rigolo parce que les voitures étaient prêtes. Et donc, la voiture de Grenoble, je roulais avec, sauf que moi, je fais 1m40 et Marcus, il fait 2 mètres. Donc, je touchais à peine les pédales et le volant. Et par contre, le bonheur pour moi, c'était de rouler avec les voitures de Gilles Panizzi, parce que lui, au moins, il faisait ma taille et j'étais enfin bien dans une voiture de rallye.
Et ce qui veut dire que Peugeot, qui revient en hypercar pour aller au Mans, ils vont donc appeler Eric Ellary.
Ah, j'aimerais bien. Alors, j'ai lu que peut-être leur engagement a été remis en cause, j'espère que non. Mais effectivement, j'aimerais bien faire partie de cette histoire parce que je pense que ça va être grandiose. Peugeot, quand ils viennent quelque part, ils y vont rarement pour ne pas gagner. Et retournement, ça serait sympa. Maintenant, comment, je ne sais pas.
On verra. L'épopée de la 908, tu en as fait partie aussi, Eric.
Oui,
un petit peu.
J'ai fait, en gros, j'étais pilote de ligne droite pour Peugeot parce que clairement, ils ont nommé un team manager qui a mis ses pilotes en place et moi, j'étais dans le système, mais ils ne voulaient pas de moi, donc ils m'ont demandé de partir.
Tu es le premier à avoir roulé dans la 908 ?
Oui, oui. Alors, Peugeot avait dit cette voiture roulera avant la fin de l'année. Alors, je ne sais plus quelle année c'était. Et c'était 2012 ou 2011, non ?
Non, bien avant ça.
Ah, c'était avant.
C'est avant 2008
2007. Fin 2007, 2008.
Ah oui, déjà ?
Déjà, oui. Effectivement,
on s'est retrouvés à Satory. Il faisait un froid de canard. Et on a roulé donc en décembre. Et c'était quelque chose d'assez incroyable. Je me rappelle encore, on est arrivé, il faisait nuit. Enfin, tout juste il neigeait et on a roulé. J'étais le premier à rouler avec cette voiture.
Mais il me semble que lorsque la présentation de la 908 a été faite, on était à Mortefontaine, je crois, où on avait Jacques Villeneuve, Marc Genet, Pedro Lamy, Franck.
Bourdet. Tout,
voilà. Le gars qui a amené la voiture escortée par les 806 ou je ne sais plus quelles autres autos,
c'est moi.
C'était pépère.
Et ouais. Et c'était sympa, n'empêche. Tu te rappelles un peu, ça faisait comme un peu comme la patrouille de France, la 908 sur l'anneau.
C'est
bien fait. Hein.
Et Peugeot, ils ont toujours su présenter leurs autos, ça c'est certain. Donc c'est forcément une période de ta vie qu'on ne peut absolument pas ignorer. Moi, il y a quand même des périodes de ta vie de pilote que je trouve absolument fabuleuses, et notamment lorsque tu as roulé en Allemagne, que ce soit en Super Tourenwagen, et après en DTM, mais toute cette période du Super Tourenwagen, c'est, je ne sais pas si tu partages cette avis-là, mais c'est l'âge d'or du touring car.
Clairement. Il y avait un niveau de pilotage, un niveau d'équipe, un niveau de voiture, c'était juste génial. Et il y avait 100 000 spectateurs sur certains circuits. Je ne sais pas si tu te rappelles, en Allemagne de l'Est, c'était un événement vraiment national et c'était difficile pour nous d'arriver sur le circuit. On était obligé de se cloîtrer dans les motorhomes pratiquement, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Moi, c'était un souvenir, franchement, un souvenir qui restera toute ma vie.
Il y a des circuits qui étaient complètement...
Plus le DTM encore. Le STW, c'était génial, mais c'était malgré tout une 2 litres traction. DTM, V8, propulsion, voiture en carbone et tout, c'était top.
C'est vrai que toi, ton Astra coupé là, avec les portes en élytre, je crois que ça s'appelle comme ça.
Non, celle-ci, c'était celle de Winkelhock.
Toi, tu as eu
la seule avec les portes en élytre. Nous, elles avaient des portes normales.
D'accord. Mais toi, tu étais dans la Jägermeister quand même.
Oui.
C'est ça? Ok. Oui. Sympa, un bon sponsor.
Non, mais... Les fans étaient quelquefois indisciplinés, faut bien reconnaître.
Ça fera l'objet d'un autre numéro.
Laurent, on sait que bon, tête est picousée à l'endurance, mais est-ce que ça, pour toi, enfin, comme pour moi, lorsqu'Eric roulait en DTM, tu as trouvé que des années absolument incroyables.
Tout ce qui était super tourisme et tout, enfin, je sais pas, moi, j'ai pas vu de meeting sur place, mais ça devait être un truc, comme tu dis, Eric, ça devait être un truc qui était énorme. En plus, quand tu vois la qualité des pilotes qui étaient en piste, ça devait être un truc de folie, quoi.
Les courses au Norris Ring, en plus, bon, c'est quand même un lieu qui est marqué d'histoire, ouais, parce que c'est l'histoire. Là où Adolphe réunissait ses troupes, etc. On roulait là-bas, mais c'était juste incroyable. Franchement, c'était plus que de la course automobile. Tu avais l'impression d'un peu de rentrer dans l'histoire de l'Allemagne. Et je me rappelle encore à l'époque, surtout en STW, sur le podium, il y avait quand même deux Français. C'était moi et Laurent Aiello. Et c'était un petit peu gonflé, tu vois. À l'époque, c'était en 98, je m'en rappelle très bien. Et la France venait de gagner la Coupe du Monde de football. Et Laurent m'appelle, il me dit « Eric, on va y aller avec les cheveux bleu, blanc, rouge. » Je crois que t'es poussé le bouchon un peu loin. Et j'ai refusé, mais lui, il voulait faire ça. J'ai dit « Non, là, non, c'est un peu too much. »
En Allemagne, peut-être pas. Hein. C'est un peu limite quand même. Hein. C'est un peu risqué. Hein. C'est des coups à prendre des pierres sur ta voiture après.
Après, franchement, les Allemands, ils ont été top hein, avec nous parce que en STW, il y avait quand même pas beaucoup d'étrangers. Il y avait à l'époque, si je me rappelle bien, il y avait Modena, il y avait Laurent, il y avait moi. Après, il y avait quand même beaucoup d'Allemands. Il y avait aussi Christensen aussi, mais à l'époque, c'était quand même une formule très pro-allemande et on a toujours été très bien accueillis. Et à part Apt qui nous mettait des coups de pare-choc régulièrement, les autres, ils ont été sympas avec nous.
Alors après, toutes ces... Vas-y Laurent, je t'en prie.
Non, mais t'as un championnat, il y a quelque chose que t'aurais voulu faire ou auquel t'es passé à deux doigts de faire et que t'as pas fait et que tu regrettes un petit peu?
Ah oui, la Formule 1.
Ah. Ok, bon.
La Formule 1, j'aurais bien aimé faire de la Formule 1. Après, je me dis que... J'aurais peut-être pas brillé en F1. Il y en a quelques-uns qui ont fait un grand prix, deux grands prix et qui n'ont pas réussi parce que pas là au bon moment, pas là au bon endroit. Et peut-être que ça m'aurait déstabilisé. Là, je me dis que bon, j'aurais pu briller en F1 et c'est peut-être pas plus mal. Mais j'aurais aimé en faire. Franchement, c'est quand même des autos incroyables. Et puis bon, malgré tout, on commence en karting. C'est tous pour faire de la F1.
Ouais.
En tout cas, à l'époque, à mon époque. Aujourd'hui, il y a tellement de barrières pour y arriver que les jeunes, tu regardes Thomas Laurent, lui, il voulait faire de l'endurance. Il ne voulait même pas essayer d'aller en F1. Mais nous, on voulait tous y aller en F1.
Ouais. Et t'as juste...
Vas-y, Laurent.
Justement, tu as été race advisor pour Essero, où tu étais un petit peu, on ne va pas dire le gendarme, mais c'est toi qui regardais et qui conseillait un petit peu. Est-ce que tu vois une évolution au fil du temps des pilotes, des comportements? Est-ce que ça devient plus souple? Est-ce que c'est plus facile à gérer que quand toi tu roulais? Comment est-ce que toi tu vois un petit peu l'évolution des choses maintenant que tu es passé de l'autre côté de la barrière?
Alors là, je viens de repasser de l'autre côté puisque je ne serai plus driver advisor chez Essero qui a décidé de se passer de ça. Alors je suis impatient de voir comment ça se passe parce que avant que j'y arrive, c'était un peu compliqué. Ils avaient pas mal d'accrochages. Est-ce le fait du hasard? Mais quand je suis arrivé là-bas, ça s'est vraiment calmé. J'ai essayé de vraiment bien le faire, en sachant que ce n'est pas toujours facile. Maintenant, est-ce qu'il faut un driver advisor ou pas? Franchement, j'en sais rien. Est-ce qu'il faut mettre des règles? Est-ce qu'il faut ne pas en mettre? C'est difficile, parce que c'est vrai que, en général, quand tu pousses un pilote, tu ne le fais pas exprès. Te prendre une pénalité parce que tu as poussé, est-ce que ça t'empêche de le refaire la fois d'après? J'en sais rien. Est-ce que les gens vont voir de la course automobile pour qu'il ne se passe rien, qu'il n'y ait pas d'accrochage, qu'il n'y ait pas de poussette? C'est une philosophie de la course qu'il faut revoir. Après, quand vous me dites ça, Je vois ce qui se passe dans les courses virtuelles. Et je me dis qu'il ne faut pas non plus que ça devienne du virtuel, tu vois. Il y a des choses auxquelles il faut réfléchir. Et le virtuel, c'est bien, mais je ne suis pas sûr que ce soit aussi bien que la vraie course, quoi.
Tu regardes un peu le virtuel ou pas ?
Alors, je ne regarde pas, mais je suis passionné. C'est-à-dire que depuis que les premiers jeux vidéo sont sortis, j'ai toujours eu des petits simulateurs et je joue, mais je joue contre l'intelligence artificielle, mais je ne joue pas en réseau parce que chaque départ en réseau, tu te fais pousser, tu te fais rentrer dedans et je trouve qu'il n'y a pas de respect. Et c'est un peu ce qui manque en course automobile.
Ouais.
Bah c'est facile, tu n'as pas ton adversaire face à toi, donc tu peux te permettre plus de choses, hein.
Ouais, et puis quand tu vois
ça coûte rien.
De passer le raidillon à fond, tu le fais sans aucune appréhension, sans avoir peur de te faire mal, et il n'y a aucun mérite finalement en jeu. Alors que c'est difficile. Techniquement, c'est aussi difficile qu'en vrai, pratiquement, mais tu as quand même une vision bien plus extérieure des choses que quand tu es assis à 300 à l'heure dans le cockpit et que si tu te loupes, ouais. Ça ne va pas faire la même chose que si tu te loupes avec ton volant de PlayStation.
C'est sûr. juste pour revenir quand même sur l'endurance, je pense qu'il y a aussi, tu as eu Jean Todt qui a marqué ton existence, mais est-ce que M. Pescarolo a marqué aussi l'autre partie de ta carrière ?
Alors, bien sûr, Henri, ça fait partie de mes copains d'aujourd'hui. On ne s'est pas souvent au téléphone, mais à chaque fois, on est très content de se parler. C'est un grand monsieur, je ne l'ai pas trop connu en tant que pilote, hein. Moi je l'ai connu en tant que team manager.
Oui, c'est cette partie-là dont je voulais parler, effectivement.
Mais il a beaucoup de charisme, et puis quand il dit quelque chose, on l'écoute, et pourtant il dit toujours gentiment, mais on sait qu'il a une telle expérience que de toute façon, c'est lui qui a raison, et ça s'est souvent révélé vrai, même s'il a de temps en temps exagéré un peu les consignes qu'il nous donnait.
mais tu as roulé au Mans pour lui, mais tu as aussi roulé en 406 Silhouette, je crois, à l'époque. Hein,
oui,
il avait le contrat de Peugeot.
Soleil, et puis Soleil, c'est tout. Oui, on a roulé. Ouais, et puis Grégory Guilvert qui a fait une course avec nous aussi avec la 407. Mm-hmm. Oui, on a roulé. C'était génial. On a écrasé la concurrence d'ailleurs parce que on a récupéré la première année des voitures qui était dans une autre écurie, et on a gagné, je crois, une seconde et demie au tour, ou deux secondes, uniquement grâce à Claude Galopin, qui a trouvé des bons réglages, sans rien changer à la voiture, et puis après, on a écrasé le Super Tourisme.
Le petit couac, c'est 95 aussi, où là, normalement, tu es censé accrocher une victoire au Mans aussi, avec ce qu'on sait déjà, avec Mario Andretti notamment, et tu as une petite anecdote, je crois, à ce sujet-là, à l'arrivée, peu de temps avant.
Ah, le capot, tu veux dire ?
Ouais, le capot, ouais.
Le capot, eh oui, bah, écoute, c'est resté secret pendant très longtemps. Hein.
Ouais. je veux bien connaître.
Lorsque Mario sort en début de course, ça aurait pu arriver à tout le monde, hein, de sortir, surtout pour un Américain sous la pluie, qui ne roule pas sous la pluie normalement. Ouais. Mario sort et dans le choc, le capot arrière est endommagé. Donc les mécaniciens changent entre autres le capot parce qu'il y avait évidemment l'aileron, je crois qu'il y avait des triangles, enfin on perd 45 minutes au stand. La voiture repart et là on remonte et on repasse en tête. Sauf qu'ils s'aperçoivent que le capot arrière n'a pas les bons sponsors dessus. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils nous arrêtent, on change le capot et ils remettent l'ancien avec les bons sponsors dessus, sauf qu'évidemment, ils ne se montent pas, ça coince, ils sont obligés de percer, bref, et on perd quelques minutes, et au final, on termine deuxième pour 3 minutes. Donc, ce qui veut dire que si on n'avait pas changé le capot, on gagnait Le Mans. Et on gagnait Le Mans avec Andretti, Volek et Courage, ce qui était quand même pareil. Donc celle-là, ouais, elle fait mal.
Hein. Oui, elle doit piquer un peu, effectivement.
Elle pique, hein.
Ouais. Bon, Eric, ça y est, la France peut à nouveau envisager un avenir. Comment, toi, te prépares-tu à ce retour d'activité ? Comment tu vas y aller progressivement ? Tu es prêt à mettre les voitures dans les camions à partir du moment où on vous donne le feu vert. Si tu as des clients qui te demandent de faire des séances d'essai privées, tu les organises. Comment tu t'organises là pour les prochaines semaines?
Alors, en fait, tout est prêt, puisque, encore une fois, le tour auto devait avoir lieu il y a 15 jours. Donc, toutes les voitures sont sorties, toutes sont prêtes. Après, si on veut faire des essais privés, il faut normalement qu'on reste dans un... Enfin, il faut rester dans un rayon de 100 km. Donc, pour nous, c'est Albi, pour Arnos, éventuellement, Nogaro. Voilà. Donc, on peut aller sur ces trois circuits-là, ce qui est déjà bien. Mais tout est prêt. Donc, ça peut repartir dès demain. Et franchement, j'espère que ça va repartir, parce que c'est quand même le plus beau sport du monde et que ça serait dommage qu'on soit obligé de rester chez nous. Bien d'accord.
On est bien d'accord.
Bon, bah franchement, comment dire quelque chose de plus après ces belles paroles, mon cher Eric. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous, Eric et Larry. C'était un plaisir de t'entendre. J'espère avoir le plaisir d'entendre ta voix aussi au mois de septembre cette année pour les 24 heures du Mans, mon cher collègue. Et puis, à très bientôt. Laurent Mercier, merci.
Merci.
Bonjour madame.
Vous avez vu toute la famille, c'était Laurent.
Voilà, c'est bon, là, on a...
Laurent et Larry.
Les amis. Merci Eric.
Merci Eric.
Merci.
Allez, ciao.
Ciao Eric.
À la prochaine. Ciao tout le monde.